Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
La Bastille est assiégée et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, on imagine les officines révolutionnaires, ordinaires dans des caves et un petit peu enfumées avec des affiches, des poings brandis. Celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui n'a pas du tout cette allure-là. On voit des vélos en réparation. Et la personne à qui je vais m'adresser, qui est présente dans cette officine révolutionnaire, s'appelle Olivier Georgiades. Il est maire adjoint de Trélissac et conseiller communautaire, et il est président d'une association qui s'appelle Vélorution. Une seule solution, la Vélorution. Olivier Georgiades, qu'est-ce que c'est que Vélorution ?
Vélorution, c'est une association qui fait la promotion des déplacements à vélo sur l'agglomération de Périgueux. En fait, le vrai nom, c'est Vélorution Périgourdine. On a rajouté l'adjectif périgourdine parce que la Vélorution existe à d'autres endroits, ça existe au niveau national. Le nom nous avait vraiment beaucoup plu, et comme il était libre de droit, on l'avait repris. Et donc l'idée, c'est d'encourager d'une part les périgourdins à se déplacer plus souvent à vélo, et d'autre part les collectivités à prendre en compte les cyclistes dans les aménagements urbains pour que les cyclistes puissent se déplacer en toute sécurité.
Alors là, vous vous attaquez quand même à une montagne, parce que quand on regarde les chiffres, Périgueux fait partie des villes où les gens se déplacent le moins en vélo. J'ai vu quelque part que ça tournait autour de 1%, alors que dans des villes comme Colmar, Strasbourg ou d'autres villes, on arrive à 7 à 8%. Et deuxièmement, une autre question à vous poser. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin. Mais quand on entend que le groupe PSA a fait 19% de bénéfices l'année dernière et il se glorifie d'un chiffre d'affaires de 74 milliards d'euros, vous attaquez un Himalaya, là.
On s'attaque à très très difficile, c'est sûr. Impossible n'est pas français, hein, donc c'est sûr que sur Périgueux, on part de loin. On n'en est pas du tout à une part modale du vélo comme celle de Colmar que vous évoquiez. On est effectivement sur la zone urbaine de l'agglomération, si on arrondit généreusement à 1% des déplacements qui se font à vélo. On part de loin, c'est le tout début. Et effectivement, dans Périgueux, la voiture est le moyen de déplacement le plus utilisé. La voiture individuelle, quand on regarde les gens dans les voitures, on s'aperçoit que 8 voitures sur 10, 9 voitures sur 10, à certains moments, sont occupées par une seule personne, le conducteur ou la conductrice. Et donc, on a énormément de boulot, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on sent qu'on est à un tournant et que les gens sont de plus en plus prêts à lâcher la voiture pour certains déplacements. Moi, je croise de plus en plus de cyclistes. Je ne parle pas de gens qui font du loisir sur la voie verte, mais de gens qui se déplacent le matin pour aller au boulot à vélo. J'en croise de plus en plus. Et puis les collectivités misent sur le vélo, et l'agglo de Périgueux et les communes aussi, misent sur le vélo et se sont donné comme objectif de passer de 1% de déplacements à vélo à l'heure actuelle à 8 à 10% de déplacements à vélo d'ici 10 ans. Alors c'est très ambitieux, c'est le démarrage qui va être le plus difficile. Comme on dit à vélo, c'est en général les premiers coups de pédale qui demandent le plus d'énergie. Une fois qu'on va être lancé, ça sera plus simple. Mais nous, on a vraiment l'ambition de mettre les périgourdins sur des vélos, au moins de temps en temps, pour aller chercher la baguette de pain, pour aller chez le copain, pour aller au cinéma, pour... voilà, pas forcément tout le temps, mais pour une partie de leur déplacement, oui.
Alors, vous avez bien compris que c'est volontairement que j'ai commencé par le côté sombre de votre entreprise. Mais il y a des côtés brillants. La fabrication des vélos croît beaucoup plus rapidement que celle des véhicules automobiles. Il y a eu une grande enquête en 2017 qui a montré quand même qu'il y avait une proportion importante des 20 à 45 ans qui se déplaçaient en vélo, de plus en plus, en particulier pour leurs déplacements professionnels. Et ça, c'est encourageant, malgré le classement assez médiocre de la France dans les grands pays cyclistes.
Ben, la France, en fait, y a un bouquin très très intéressant de Frédéric Errand qui le montre. La France, à une époque, était à la pointe de ce qui se faisait en termes de déplacement à vélo. Et puis, malheureusement pour le vélo, la France est devenue une grande nation constructrice d'automobiles. Et il y a eu ce virage, dans les années 50-60 où on s'est mis à faire le tout automobile. C'était les années Pompidou, c'était les années où il fallait qu'on ait sur les quais de Bordeaux par exemple, c'était des 2x5 voies qu'on avait.
Les Français aimaient la bagnole, d'après Monsieur Pompidou.
Les Français aimaient la bagnole, il fallait que, voilà, c'était le début. Et puis, les pays du nord de l'Europe, qui sont des grands pays de vélo à l'heure actuelle, étaient à peu près à la même enseigne. Ils étaient partis sur l'auto-voiture. Eux, ils ont pris un virage beaucoup plus précoce que le nôtre. Dès qu'il y a eu les premières crises pétrolières, ils ont un petit peu levé le pied sur la voiture et ils sont revenus au vélo. Donc, ils sont partis beaucoup plus tôt que nous. Ils sont revenus beaucoup plus tôt que nous au vélo. Et donc, nous, on a maintenant un grand, grand chemin à parcourir pour revenir à leur niveau. Mais à une époque, on était tout à fait comparable à ce qui se fait aux Pays-Bas ou au Danemark.
Qui sont aussi des pays qui ont quand même un atout géographique, c'est-à-dire la relative absence de relief qui font mal aux mollets.
Alors c'est vrai, mais alors sincèrement, moi j'ai grandi dans la Beauce, qui est une grande plaine au sud de Paris, et c'est vrai que c'est plat, mais alors il y a un vent qu'on n'a pas forcément en Périgord, rien n'arrête le vent, et quand on se retrouve avec le vent dans le nez, sincèrement, je préfère certaines côtes du Périgord au vent que j'avais quand j'étais gamin dans la Beauce.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous attaquer à ce problème du changement de mode de transport dans l'agglomération périgordine?
Mais au départ, c'est une démarche personnelle. Moi, j'ai fait construire en 2003 une maison à 10 km du centre-ville de Périgueux, sur la commune de Trélissac, sur les hauteurs. On avait trouvé un terrain avec ma petite famille. Et on avait envie, effectivement, d'être propriétaire d'un bout de terrain avec une maison dessus. Et puis, très rapidement, je me suis senti prisonnier des déplacements quotidiens en voiture. S'il fallait qu'on achète une baguette de pain, il fallait qu'on fasse 6 km aller-retour avec la voiture. Quand les enfants ont grandi, dès qu'il y avait des activités à droite, à gauche, un anniversaire, aller au club de foot, aller à l'entraînement de sport ou aux activités, il fallait qu'on prenne la voiture. Et je me suis senti extrêmement dépendant de la voiture et trop dépendant de la voiture. Et puis mon histoire familiale a évolué, j'ai dû quitter cette maison-là, je me suis rapproché de la ville, j'avais toujours ma voiture, mais je me suis mis à un endroit où j'étais à proximité de la voie verte, pas très loin des lignes de transport en commun, de Péribus, et je me suis mis à utiliser de moins en moins la voiture. Et cette voiture, je l'utilisais tellement peu que je l'ai mise en location. Et puis un beau jour, il y a une de mes locataires qui s'est plantée avec ma voiture et j'en ai pas racheté. Donc maintenant, je vis sans voiture et je découvre en fait la liberté que ça procure. La liberté que ça procure et la forme que ça permet de conserver et l'aspect financier qui n'est pas négligeable. Et je me suis dit que c'était, pour l'avoir expérimenté moi-même, que c'était quelque chose qui pouvait répondre à plusieurs des problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle, à savoir l'engorgement de nos villes moyennes par la voiture individuelle, le fait que certaines personnes sont, dépensent des quantités d'argent phénoménales pour leur déplacement. Parfois, la part du budget familial qu'on consacre au déplacement dépasse la part qui est dévolue à l'alimentation. Et toutes ces solutions-là que moi j'avais expérimentées, je me suis dit, alors elles ne sont pas forcément reproductibles par tous les périgourdins, mais je me dis simplement que si on facilitait les déplacements à vélo, comme on essaye de faciliter aussi les transports en commun en développant les couloirs de bus et les sites propres, etc., eh bien on aurait peut-être plus de gens qui lâcheraient la voiture à certains moments et on irait vers une ville plus conviviale, plus apaisée, moins bruyante, moins stressante, plus agréable à vivre, dans laquelle il ferait bon consommer. Les statistiques montrent que les villes où on développe les déplacements à pied, les déplacements à vélo, les déplacements doux, sont des villes où les gens consomment davantage en centre-ville. Il y a des évolutions de clientèle, mais les études le montrent. Et moi, je me dis que le vélo peut donc apporter pas mal de solutions aux problèmes qu'on rencontre sur une aglo comme la nôtre.
On l'a déjà vu, ce que vous dites, avec la piétonnisation des centres-villes, qui ont rendu les centres-villes plus, à la fois plus agréables et plus attractifs. Mais que les Français et d'autres personnes aussi dans le monde, en particulier aux États-Unis ou dans d'autres pays, grands pays développés, soient devenus les otages de la voiture, on le voit bien, on l'a bien vu dans notre pays encore avec ce qui a déclenché ce qu'on appelle maintenant la crise des gilets jaunes il y a quelques mois. Quand même, ce qui vous a amené à cette démarche, j'imagine que c'est une conviction écologique et puis peut-être de plus en plus ce qu'on peut appeler une inquiétude écologique, puisque maintenant on parle d'urgence, enfin.
Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect que je n'ai pas encore évoqué, c'est l'aspect pollution et émission de gaz à effet de serre. On est maintenant dans un système de déplacement qui est tout voiture et qui est une des causes principales de pollution de l'air et de réchauffement climatique. Et le vélo peut apporter une solution à ça, évidemment. Je dis pas que la solution, que le vélo est la solution à tout. Je ne dis pas qu'il faut que les gens abandonnent la voiture et se passent complètement de la voiture. Ça se fera progressivement, ça se fera pour certains déplacements. J'espère que les gens qui vont goûter au vélo y prendront goût et utiliseront le vélo de plus en plus. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des situations qui sont complètement tributaires de la voiture, que ce soit professionnellement ou géographiquement. On ne peut pas déménager du jour au lendemain, on ne peut pas changer de boulot du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de dire que le vélo doit supplanter la voiture. Je dis simplement que chez tout un chacun, chez tous les périgourdins, il faudrait que le cycliste, de temps en temps, remplace l'automobiliste. Il ne s'agit pas d'opposer les personnes, il ne s'agit pas d'opposer ceux qui ont un vélo et ceux qui ont une voiture. Il s'agit simplement d'opposer les modes de transport et de dire que pour certains déplacements, le vélo est une meilleure solution que la voiture. Il suffit simplement d'aménager des choses pour qu'on soit plus à l'aise sur les vélos.
Je voulais vous demander aussi comment vous entendez arriver à cette retour du vélo dans les agglomérations comme un mode de transport quasi normal.
Mais la plupart des gens qu'on rencontre et qui nous disent « moi je ne ferai pas de vélo à Périgueux », les principaux freins c'est quoi? C'est le relief, c'est le mauvais temps. Et puis c'est surtout la crainte de circuler parmi les voitures dans des rues qui sont envahies par les véhicules. En ce qui concerne le relief, nous on a un petit slogan à Vélorussion, on dit le relief à Périgueux, n'en faites pas une montagne. Voilà, on n'a pas de col à franchir. Alors c'est vrai que quand on est sur un vélo à assistance, enfin sans assistance électrique, un vélo classique, musculaire, grimper sur le plateau de Coulounier-Chamier ou grimper la côte de l'hôpital ou monter sur le plateau de la Grenadière ou sur le plateau de Promso, il faut des mollets. Maintenant, on a une vraie démocratisation du vélo à assistance électrique. Et le vélo assistance électrique, il a un double avantage. D'abord, il permet d'aplanir le relief, c'est-à-dire qu'on peut grimper des côtes avec une assistance électrique sans se retrouver complètement essoufflé et dégoulinant de sueur quand on arrive en haut. L'autre avantage du vélo assistance électrique, c'est qu'il raccourcit les distances. C'est que quelqu'un qui peut envisager éventuellement un déplacement de 3 km à vélo sur un vélo classique, bah, il va peut-être envisager un déplacement de 6 ou 10 km avec un vélo assistance électrique. Après, il y a le mauvais temps. Alors, le mauvais temps, c'est vrai que ça nécessite une logistique particulière. Il faut des vêtements pour lutter contre la pluie. Il faut être un petit peu plus souvent sur les sites de météo qui vous annoncent s'il va pleuvoir dans l'heure. Il faut planifier un petit peu plus ces déplacements. Ceci dit, sur Périgueux, il n'y a pas tellement de jours dans l'année où on est vraiment rincé par la pluie. Moi qui fais du vélo au quotidien, ça doit m'arriver peut-être une dizaine de fois dans l'année, maximum, de me retrouver trempé par la pluie. Il y a quelquefois du crachin, bah, un bon caouet, ça permet aussi de faire du vélo, quand le temps le permet moins. Après, reste le vrai problème de la circulation dans des rues qui sont surtout occupées par les voitures et des voitures qui roulent parfois un peu vite. Faire du vélo rue Victor Hugo, faire du vélo rue Pierre Sémard, avenue du Maréchal Juin, même sur les boulevards, c'est parfois un petit peu compliqué. Le partage de la rue n'est pas forcément quelque chose d'évident. Savoir se placer dans la circulation, savoir se déplacer au milieu des voitures n'est pas forcément évident. Et ça nécessite une vraie volonté de la part des pouvoirs publics pour qu'il y ait des itinéraires cyclables qui permettent de sécuriser les déplacements des cyclistes. Et là, il y a un boulot à faire, mais encore une fois, les collectivités semblent vouloir prendre ça en compte et ça va plutôt dans la bonne direction.
Vous avez des exemples à nous donner d'aménagements urbains dans l'agglomération de Périgueux qui montrent que les autorités sont disposées maintenant à accepter le vélo et même à l'accueillir, à faciliter son utilisation.
Bah, il y a cette fameuse piste cyclable des boulevards en plein centre-ville de Périgueux qui est arrivée. Alors, est-ce qu'elle est arrivée à point nommé? Moi, je ne sais pas. Nous, cyclistes, on est ravis qu'elle soit là. Elle fait beaucoup parler d'elle parce que les gens disent elle prend de la place aux voitures, elle va nulle part, elle mène nulle part, elle vient de nulle part. Bon, ça n'est qu'un début. Il faut imaginer que ces 250 mètres de piste cyclable vont se prolonger du côté de la place Francheville, du côté du rond-point Evigenac. Ça permettra ensuite de traverser la ville en toute sécurité. Moi, je trouve que c'est quand même emblématique d'une volonté politique des collectivités de faire quelque chose pour le vélo. L'autre chose qui se connaît moins, mais qui est un signe pour moi important, c'est l'agglomération du Grand Périgueux qui a voté un schéma cyclable. Et dans ce schéma cyclable, il y a l'ambition de passer de 47 km d'itinéraires cyclables qui existent à l'heure actuelle sur l'agglomération à 132 km dans 10 ans, c'est-à-dire de rajouter, de tripler, quoi, hein, de rajouter 82 km d'itinéraires cyclables dans les 10 années qui viennent. Et l'agglomération du Grand Périgueux, du coup, une fois ce schéma cyclable voté, a lancé un appel à projet aux communes pour leur demander si elles avaient des volontés de réaliser des itinéraires cyclables pour les cofinancer. Et les communes ont quasiment, en tout cas les communes de la zone urbaine de Périgueux, ont quasiment toutes répondu à cet appel à projet. Il y a des projets un petit peu partout dans les communes, Périgueux bien sûr, mais toutes les communes de la première couronne, certaines communes en milieu rural aussi pour relier le centre-bourg à un point un peu plus périphérique, pour installer du stationnement vélo à proximité d'un équipement sportif, ont répondu à cet appel à projet. Et du coup, on se rend compte qu'il y a une appétence des collectivités pour des aménagements vélo. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est dans l'air du temps, on arrive à un tournant et le vélo est de plus en plus pris en compte.
Oui, je pense aussi qu'il y a les déplacements de loisirs, le vélo comme moyen d'entretenir sa forme, mais aussi d'aller un petit peu dehors. Et à ce titre-là, la voie verte est quand même quelque chose d'important comme aménagement qui a été réalisé au cours des dernières années.
La voie verte est un très très bel aménagement, mais ça reste un aménagement de loisirs principalement, qui peut être emprunté pour des déplacements du quotidien, bien sûr. Mais dès qu'il fait beau et qu'on a, on connaît le succès de la voie verte, hein, on a tellement de monde sur la voie verte que c'est une piste de promenade, c'est une piste de loisirs plus qu'une piste pour les déplacements quotidiens. Par contre, il y a un vrai enjeu que vous évoquez et qui est très important, c'est l'attractivité du territoire pour des gens qui viennent visiter le territoire, des touristes qui viennent et qui viennent à vélo. La voie verte, elle se prolonge maintenant jusqu'en Gironde, avec la véloroute V90. Pour l'instant, Périgueux, c'est un cul-de-sac, c'est-à-dire que les cyclotouristes qui arrivent de la Gironde vont terminer leur parcours à Trélissac, au niveau du pont de Charrieras. Mais il y a une volonté et de l'aglo, et des autres aglos environnantes et du département, de prolonger la voie verte et cette véloroute vers l'est, pour la relier à d'autres véloroutes, de façon à ce qu'on puisse avoir effectivement un maillage de notre département avec des touristes qui viennent à vélo et qui visitent Périgueux et qui restent un petit peu pour profiter du territoire. Et forcément, ces itinéraires cyclables qu'on va développer pour le tourisme en premier lieu seront des équipements qui serviront pour le loisir. Et ces équipements qui serviront pour le loisir, ils pourront aussi servir pour certains déplacements du quotidien, forcément pour les périgourdins. Donc on va forcément aussi dans la bonne direction avec ces équipements.
Olivier Georgiades, est-ce que vous êtes pessimiste pour l'avenir en matière de demande d'environnement? Les chiffres que j'ai cités tout à l'heure au sujet des bénéfices de PSA sont un petit peu inquiétants quand on voit qu'on voudrait limiter à toute force l'émission des gaz à effet de serre, puisque maintenant la plupart des gouvernements admettent qu'il y a un effort à faire de ce côté-là si on veut redresser la barre. Est-ce que vous êtes un pessimisme radical ou est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction et que l'effort que vous représentez pour inciter les gens à moins utiliser la voiture a des chances d'aboutir, on va dire, à temps?
Alors, ce n'est pas uniquement nous qui allons faire changer les choses, mais là aussi, je pense que le fruit, il est quasiment mûr. En ce qui concerne les gouvernements, il y a toujours une espèce de schizophrénie qui existe dans les discours, parce qu'ils sont bien conscients de ce qui se passe au niveau réchauffement climatique, changement climatique, bouleversement climatique, mais ils continuent d'encourager le tout voiture, parce que c'est une industrie française. Il y a des intérêts économiques évidents, mais alors il y aurait aussi des intérêts économiques, on le sait, à une transition écologique avec un développement d'alternatives. Mais on le voit aussi avec tout ce qui se profile au niveau national comme mouvement de protestation, que ce soit la pétition qui s'appelle l'affaire du siècle et qui demande au gouvernement d'aller plus vite et plus loin en termes de mesures et de politiques pour lutter contre le dérèglement climatique. Le gouvernement a ratifié l'accord de Paris par rapport au climat, mais en même temps continue d'investir dans des énergies fossiles ou ne prend pas les mesures législatives nécessaires pour que le secteur bancaire, par exemple, se désinvestisse des énergies fossiles. Donc on a une schizophrénie. Il faut bien que les fleurons économiques nationaux que sont PSA ou Total continuent de tourner. Et donc c'est très difficile pour le gouvernement de ménager à la fois l'économie et puis de prendre ses responsabilités par rapport au climat. Par contre, là où je suis optimiste, c'est que je vois des mouvements qui fleurissent un petit peu partout. J'ai évoqué la pétition « L'affaire du siècle » qui a dépassé les 2 millions de signatures pour assigner l'État en justice pour qu'il prenne davantage ses responsabilités par rapport au climat. Il y a tout le mouvement des jeunes là qui est en train de poindre avec les grèves des collégiens, des lycéens, des étudiants par rapport au climat, qui commence à prendre en France après que ça ait pris en Belgique et dans les pays limitrophes, les pays du nord de l'Europe. Nous, on va participer à notre niveau avec Vélorussion à ce mouvement-là, mais on sent bien qu'il y a dans la société une volonté de prendre ça en compte. Alors après, on est tous pétris de contradictions. Le gouvernement essaye de faire ce qu'il peut. Les particuliers, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont dépendants de la voiture, qui se sont malheureusement installés dans une situation qui les rend dépendants de la voiture. Et ça ne changera pas du jour au lendemain. Moi, je crois qu'il faut prendre en compte cette urgence parce qu'elle existe. Mais il ne faut pas demander aux gens des changements radicaux du jour au lendemain. Il faut qu'on arrive à ménager et en plus à rendre attractif. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je dis aux gens, goûtez au vélo. Et ne serait-ce que quand il fait beau, ne serait-ce que pour un petit peu de loisir, ne serait-ce que pour aller faire une balade, ressortez le vélo de chez vous, venez à l'atelier, apprenez à entretenir votre vélo, allez acheter votre baguette de pain avec le vélo, promenez votre chien avec le vélo, faites du vélo un petit peu de temps en temps, prenez-y goût et vous allez voir que ça va petit à petit changer votre vie. Moi, je crois à des changements
rapides. Et si vous avez 80 ans, faites-en chez vous.
Faites-en chez vous. Mais moi, je vois des papis et des mamies qui vont faire leur marché avec la petite cagette derrière un vélo qui a au moins leur âge. Donc, c'est pas simplement une affaire de... Il faut pas attendre d'être en forme pour faire du vélo. Il faut faire du vélo pour retrouver la forme.
Comme le temps qui nous est imparti est limité, je voudrais vous demander maintenant... comme je le fais traditionnellement, quels sont les dérivatifs que vous avez, quelles sont vos passions en dehors de la popularisation de la bicyclette comme moyen de transport. Vous êtes trop jeune pour être à la retraite, vous êtes un élu, vous avez des responsabilités, donc d'édile. Qu'est-ce qui vous fait courir?
Qu'est-ce qui me fait courir? Un certain sens de l'intérêt général et un sentiment justement qu'on est dans une urgence à faire changer les choses. Mais moi, je suis un stit à la base. Et donc, je suis un pédagogue et je sais qu'on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre quelque chose de force à un gamin. Il faut éveiller sa curiosité. Il faut rendre les apprentissages un petit peu attractifs, il faut qu'il y ait un petit enjeu. Et je pense que les changements que moi j'aimerais essayer d'impulser au niveau de mes responsabilités politiques ou de mon engagement associatif, c'est pareil. Il faut que les gens ils aient envie de s'intéresser à leur vélo, ils sentent que c'est à leur portée, que le vélo soit rendu attractif. Qu'ils se rendent compte que le vélo peut être des solutions qu'on ne soupçonne pas pour leur faire du bien, pour aller faire ses courses, pour transporter ses enfants. On voit dans certaines villes des solutions vélo qui émergent et qu'on n'imagine pas. Il y a des artisans qui se mettent à faire du job en boulot. J'ai vu récemment un reportage où il y avait des plombiers à vélo, il y avait des kinés qui allaient masser les gens, des ostéos qui allaient soigner les gens à leur domicile avec leur planche de massage embarquée sur un vélo. Voilà, on peut aussi réinventer une ville qui fasse envie, qui soit originale, qui soit innovante, qui soit conviviale. Et je pense que le vélo, il a toute sa place là-dedans. Moi, j'ai envie que les gens participe à cette grande transition qui est nécessaire le plus vite possible, mais dans la joie et dans la bonne humeur et dans l'envie d'y aller. J'ai envie, moi, d'être un exemple, je ne peux pas dire un modèle, mais un exemple autour de moi, et j'ai envie que les cyclistes, petit à petit, soient des gens enthousiastes et convaincants autour d'eux.
C'est sur cette belle parole de conviction que nous allons terminer, nous séparer. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage, Olivier Georgiades, et je souhaite tout succès possible à votre démarche.
Merci beaucoup, et longue vie à Radio Libre en Périgord.
Merci. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.